Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Il y a une difficulté avec les non-vaccinés. Jean Castex, ferme sur le fond, mais plus doux sur la forme qu'Emmanuel Macron, le Premier ministre, à l'Assemblée cet après-midi après les propos du chef de l'État. Des files d'attente à rallonge et la colère qui monte aux portes des labos et des pharmacies. L'impatience des clients en quête de tests anti-Covid met les professionnels à rude épreuve. Reportage à suivre. Les directeurs du CHU de Guadeloupe agressés par des anti-vax, frappés malgré la présence de la police. Vous entendrez le témoignage du directeur adjoint choqué par la violence des manifestants. Une première victoire pour les victimes de la Dépakine. Sanofi jugé responsable de ne pas avoir assez informé sur les risques de son anti-épileptique. La météo, c'est du froid qui s'installe, mais aussi du soleil, nous dira Valérie Darmon. L'invité éco Jacques Cressel de la Fédération du commerce et de la distribution. Attention, les prix vont grimper, vous l'entendrez. Et puis enfin, premier coup d'œil aux unes de la presse demain matin. Une petite phrase et une longue explication de texte. Emmanuel Macron veut emmerder les non-vaccinés. Jean Castex a été prié de s'en expliquer. Vous entendrez le Premier ministre devant les députés. Mais d'abord, le premier renfort qui est venu de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, à la sortie du Conseil des ministres.
On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés? Qui gâche la vie de nos commerçants qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés? Qui gâche la vie de nos personnes âgées qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. C'était donc ensuite au tour de Jean Castex cet après-midi de faire bloc avec Emmanuel Macron, le Premier ministre accueilli à l'Assemblée dans une atmosphère électrique. Les groupes d'opposition disant leur indignation après les propos présidentiels. La réponse de Jean Castex était attendue de pied ferme, Jacques Serret.
Oui, depuis la nuit dernière, les députés réclamaient la venue du chef du gouvernement pour qu'il s'explique sur les propos d'Emmanuel Macron. Cet après-midi, pendant près d'une heure, les oppositions ont donc refusé de débattre sur le pass vaccinal tant que Jean Castex ne s'était pas présenté devant eux, multipliant les rappels au règlement pour suspendre la séance toutes les 5 minutes. Jean Castex, presque sommé de venir, s'est alors empressé de répondre aux attaques.
Oui, mesdames et messieurs les députés, vous le voyez autour de vous, il y a une difficulté avec ceux de nos concitoyens qui refusent de se faire vacciner. Bien sûr, ce n'est insulter personne. C'est la réalité.
Le Premier ministre assume et défend la ligne d'Emmanuel Macron pour qui les non-vaccinés sont irresponsables, des irresponsables qui ne sont plus des citoyens.
Oui, les citoyens de la République doivent exercer leur responsabilité et être responsable, être libre, ce n'est pas contaminer impunément les autres, ce n'est pas surcharger nos services de soins qui sont déjà soumis à rude épreuve.
Alors on vient donc d'entendre le Premier ministre dire « Oui, nous avons une difficulté avec les non-vaccinés ». Ce sont des mots moins durs que ceux du président Jacques. Est-ce que ça a suffi à calmer les esprits ?
Absolument pas. Du côté des Insoumis, la colère n'est pas retombée. Les socialistes et les républicains campent eux sur leur position, mais ils voteront tout de même en faveur du pass vaccinal. En fait, Jean Castex aura surtout réussi à remobiliser ses troupes avant l'examen qui devrait se poursuivre jusque tard dans la nuit.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Maintenant qu'on s'est expliqué, il faut accélérer sur le pass vaccinal. Voilà ce que demande Jean Castex, furieux depuis le début de la semaine de voir les débats prendre du retard. Si le pass vaccinal est adopté, ce sera en partie grâce à LR. Les Républicains ne digèrent pas les propos d'Emmanuel Macron, mais ils voteront tout de même le texte. Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée.
Nous défendrons une ligne de responsabilité. Et qu'en responsabilité, majoritairement, nous ne nous opposerons pas à ce texte, malgré les provocations du président de la République et malgré les non-réponses du Premier ministre. Lui, l'ancien maire de Prades, je ne suis pas sûr qu'il aurait utilisé ce genre de propos à l'égard d'une partie des Français, parce qu'on fracture, c'est fracturer toujours plus. On est clairement dans un président des fractures françaises aujourd'hui et on va le payer cher. Voilà, mais nous souhaitons aller jusqu'au bout de ce débat. Donc pas convaincu par le Premier ministre, mais convaincu par notre esprit de responsabilité qui est de faire un débat démocratique, serein, apaisé et qui permet tout simplement d'avoir une Assemblée nationale où la culture du respect fait loi.
Damien Abad, patron des députés LR. La France insoumise, de son côté, campe sur ses positions. Elle ne votera pas le pass vaccinal. Le député insoumis Éric Coquerel, pas du tout convaincu par les explications du Premier ministre.
Il n'a absolument pas répondu aux questions qui lui étaient posées, puisque les questions de toute l'opposition étaient sa position sur les déclarations du chef de l'État hier, c'est-à-dire ces déclarations qui donnaient pour objectif à la loi d'emmerder jusqu'au bout, disait-il, une partie des Français. Bon, il n'a pas répondu, il a répondu toujours avec les mêmes arguments, qui sont des arguments faux et démagogiques. Voilà, le débat va continuer, mais nous allons être de plus en plus fermement opposés à une loi qui est non seulement liberticide, qui s'en prend à l'état de droit, qui est démagogique et qui ne résout en rien la question sanitaire.
Le député insoumis Éric Coquerel, voilà donc pour ses réactions à l'Assemblée au micro européen d'Alexis Delafontaine. Pas sûr que le pass vaccinal soit adopté le 15 janvier comme souhaité par le gouvernement, puisqu'en raison de l'enlisement des débats à l'Assemblée, l'examen du texte au Sénat est reporté à la semaine prochaine. Plus de 332 000 cas de Covid en 24 heures, c'est un nouveau record, mais quand même une source de satisfaction pour Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui annonce 66 000 nouveaux primo-vaccinés ce mercredi. C'est une première depuis le mois d'octobre. Il sous-entend d'ailleurs un lien avec les débats sur le pass vaccinal et la petite phrase d'Emmanuel Macron. On apprend ce soir que l'Italie décide de rendre le vaccin obligatoire pour tous les plus de 50 ans. Le nombre de contaminations explose là aussi chez nos voisins italiens. On vous parle beaucoup sur Europe 1 des difficultés de l'hôpital face à l'afflux de malades. Eh bien, les pharmacies et les labos arrivent eux aussi au bout de leur force. Ils sont en première ligne de fait pour répondre aux demandes de tests toujours plus nombreuses. Les files d'attente s'allonge et du matin au soir, c'est un défilé de clients à bout de nerfs. Reportage dans le centre de Strasbourg, Mélina Fachin.
Pour faire un test dans ce laboratoire, il faut compter une heure de queue dans le froid. Pour Morgane, une habitante du quartier, c'est devenu une habitude très lassante.
Ah mais on est épuisé, on n'en peut plus d'attendre tout le temps, partout, d'être suspendu à des réponses, mais que ce soit en attente pour faire des tests, ou que ce soit en attente de résultats, ou en attente de savoir si on peut se voir, si on peut prendre nos trains, si on peut aller à des spectacles. C'est toujours attendre.
Et du coup, certains patients craquent et insultent même parfois Virginie, préleveuse dans ce laboratoire.
En général, c'est parce qu'ils perdent patience et que bah, malheureusement, on ne peut pas aller plus vite et qu'on est submergé ou qu'ils n'ont pas les résultats, etc. Mais bon, on fait ce qu'on peut, quoi.
Même son de cloche dans la pharmacie de la gare. Les clients de Lisa perdent souvent patience, notamment quand il s'agit d'obtenir des autotests.
Ces deux, trois dernières semaines, c'était rupture de stock, impossible de recevoir nos commandes. Mais vu qu'on est en première ligne, forcément, on est les premiers touchés par l'agressivité de certaines personnes, des gens qui expriment leur mécontentement, en criant, en insultant. C'est épuisant.
Heureusement, un gros stock d'autotests vient d'arriver aujourd'hui, notamment pour les cas contacts qui doivent désormais se tester au deuxième et au quatrième jour. De quoi donner un peu de répit à cette pharmacienne. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Nous allons maintenant en Guadeloupe où l'opposition au vaccin continue de se manifester dans la violence. Le directeur de l'hôpital de Pointe-à-Pitre a été agressé par des antivax venus réclamer les salaires des agents non vaccinés suspendus. Son bureau a été assiégé. Il a fallu l'intervention de la police pour exfiltrer le directeur et ses adjoints sous une pluie de coups. Écoutez le témoignage de Cédric Zolesi, le directeur adjoint de l'hôpital, particulièrement choqué par la violence de l'agression.
On a été pris dans une mêlée humaine comme une petite émeute. On m'a frappé dans le dos, j'avais un gilet de protection, mais on s'est accroché à ma chemise, on m'a arraché la moitié de ma chemise, on m'a attrapé la tête, ensuite on m'a attrapé ma mallette, enfin et tout ça en courant vers la voiture de police qui elle-même ensuite a été la cible d'attaques, des coups de coude, des coups de poing sur les vitres, il y avait beaucoup de bruit. La police a mis ma tête dans ses bras pour me protéger en fait. Ensuite, la voiture avait du mal à circuler parce qu'il y avait beaucoup de monde qui se mettait en travers pour faire des barrages humains. J'ai mal au dos et puis le directeur général a été frappé aux côtes et frappé à la tête. Et on se dit que ça aurait pu être plus grave parce qu'on peut imaginer toutes sortes de choses. Quand on vous jette du liquide à la figure, c'est une forme de lynchage.
Cédric Zolesi, directeur général adjoint du CHU de Guadeloupe, témoignage recueilli par Caroline Baudry. Les directeurs de cet hôpital ont déposé plainte. Ils réclament maintenant une protection policière sur leur lieu de travail. La pression hospitalière augmente de jour en jour. Plus de 20 600 malades du Covid hospitalisés, 3 700 en soins critiques. Cette situation ramène les soignants en arrière. C'est le résultat d'une enquête européenne. Les déprogrammations d'opérations se multiplient. La région PACA est particulièrement touchée. Pour les hôpitaux de Marseille, le professeur Jean-Luc Jouve détaille le protocole de report de ses interventions chirurgicales et il ne cache pas son inquiétude.
On a des paliers. Au tout début, c'est la chirurgie orthopédique, réparatrice, prothèse, ménisque, ligament, chirurgie esthétique, rhinoplastie, chirurgie de déformation de colonne vertébrale qui peut attendre. Tout ça, c'est le premier stade. Là où on va avoir des ennuis, d'ici une quinzaine de jours, c'est par la chirurgie cardiaque et la neurochirurgie, parce qu'il y a certaines catégories de patients qui pouvaient attendre quelques semaines, mais qui n'attendront pas plus. Ils peuvent patienter 15 jours sans grand danger, 3 semaines, mais après, il faut y aller.
Le professeur Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux de Marseille, avec Romain Desarbres dans Europe Midi. Le salon de l'agriculture incertain, en pleine vague Omicron, après son annulation l'an dernier, ses organisateurs expriment leur souhait de maintenir le salon fin février, dans le respect bien sûr des consignes sanitaires. Les plus grands événements culturels chamboulés aux États-Unis, le festival du film de Sundance sera une fois de plus entièrement virtuel cette année, là encore en raison de l'épidémie, tandis que la cérémonie des Grammy Awards est reportée sine die, deux événements qui devaient donc se tenir au mois de janvier.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Une victoire pour les victimes de la dépakine. Sanofi, jugée responsable d'un manque de vigilance et d'information pour le tribunal judiciaire. Le laboratoire n'a pas suffisamment informé sur les risques de la dépakine pour le fœtus en cas de traitement pendant la grossesse. Malformation et retard de développement pour l'enfant. Dans le domaine de la santé, c'est la première fois en France que la justice déclare recevable une action de groupe, action engagée il y a 5 ans par une association de victimes de cet antiépileptique, Thibault Hue.
Oui, et la reconnaissance de responsabilité de Sanofi sonne comme une première victoire pour ces mères de famille avec des enfants victimes de la dépakine. Ils sont plus de 30 000 en France. Pour Marine Martin, présidente de l'association de victimes APESAC, c'est surtout un soulagement. Ce médicament qu'elle a consommé enceinte a bouleversé sa vie, celle de sa fille et surtout de son fils, diagnostiqué autiste Asperger.
Il y a des troubles neurologiques quand même qui sont importants, qui font qu'il a un trouble attentionnel et une fatigabilité extrêmement importante. Donc, dès qu'il rentre le soir, voilà, c'est plus la peine que je lui demande grand-chose, que ce soit mettre la table ou préparer à manger. Ça, c'est des choses qu'il ne peut pas gérer au quotidien. Moi, j'ai l'impression d'avoir empoisonné mes enfants, d'avoir détruit le cerveau de mes enfants en essayant de me soigner. Je ne peux pas me passer de médicaments, mais j'aurais pu me passer d'être enceinte. J'aurais pu adopter. Même si c'est reconnu, moi, j'en veux à Sanofi. Je demande des excuses publiques. Moi, je suis toute petite à côté de ces gens aussi puissants. Mais bon, David contre Goliath, on peut y croire quand même.
Et le combat des victimes n'est pas encore terminé, surtout pour obtenir une indemnisation de la part de Sanofi. L'entreprise a d'ores et déjà fait savoir qu'elle ferait appel.
Thibault Hue. Le constructeur automobile Stellantis s'allie à Amazon pour fabriquer des voitures connectées. C'est une alliance stratégique puisque ça va concerner beaucoup de marques de voitures. Stellantis, c'est à la fois Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler. Autant de véhicules qui vont pouvoir embarquer le système de commande vocale Alexa et profiter des serveurs cloud d'Amazon, Aurélien Fleureau.
Oui, puisque vous le savez, les voitures ressemblent et ressembleront de plus en plus à des ordinateurs sur roues et que le logiciel devient le nerf de la guerre pour les constructeurs automobiles qui, pour ne pas être dépassés par les géants de la tech, doivent nouer des partenariats avec eux. Et c'est précisément ce qu'a fait aujourd'hui Stellantis avec Amazon au CES à Las Vegas, donc pas un salon auto, mais bien le rendez-vous du secteur de l'électronique. Alors concrètement, à partir de 2024, dans les véhicules de ces 14 marques, le constructeur va proposer une multitude de services connectés. Commande vocale, GPS, entretien de la voiture à distance et en temps réel avec des mises à jour, accès à des plateformes d'achat en ligne, Amazon en tête, et même service de paiement. En clair, commander et payer une course de dernière minute, et bien ce sera possible au feu rouge sans lâcher les mains du volant. Des alliances qui se multiplient ces derniers mois, Renault et Ford avec Google, Volkswagen avec Microsoft. Et ici, l'intérêt est double pour Stellantis puisqu'Amazon va lui commander des milliers de véhicules électriques chaque année pour ses livraisons.
Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1. Un nouvel obstacle sur la route de Novak Djokovic vers l'Open d'Australie. Novak Djokovic bloqué à l'aéroport de Melbourne à cause d'un problème de visa. Le numéro 1 mondial est autorisé à participer à ce tournoi du Grand Chelem sur dérogation médicale alors qu'il ne serait pas vacciné. Le Premier ministre australien le somme d'ailleurs de s'expliquer sur cette dérogation ou bien de repartir. Mais voici que Novak Djokovic est bloqué à la frontière et ça fait maintenant un petit moment, Axel May.
Eh bien, rendez-vous compte, hein, depuis le début d'après-midi heure de Paris, Novak Djokovic, star du tennis et du sport en général, est coincé à l'aéroport de Melbourne. Avec le décalage horaire, cela veut dire qu'il a passé la nuit sur place. C'est déjà le matin en Australie. D'après les informations qui nous proviennent des antipodes, Djoko a été séparé de son équipe et placé dans une pièce gardée. Son entraîneur, Goran Ivanisevic, a publié sur les réseaux sociaux une photo de lui-même dans un fauteuil d'aéroport avachi avec cette légende « Pas le voyage le plus habituel. Tout ça parce que Joko n'a pas rempli le bon formulaire administratif avant de partir. Il a visiblement fait une demande de visa classique qui ne comprend pas l'option d'exemption médicale dont il a bénéficié pour se rendre à Melbourne. Bref, cette dérogation médicale censée lui permettre de rejoindre l'Australie sans être apparemment vacciné faisait déjà polémique et le voici coincé à cause de cette dérogation à l'aéroport.
Axel May du service des sports d'Europe 1. Le calendrier de la Ligue 1 bousculé en majorité d'ailleurs à cause du Covid avec déjà deux reports de matchs confirmés. Angers-Saint-Etienne reprogrammé le 26 janvier en raison de 19 cas de Covid chez les Angevins. C'est en revanche le brouillard qui avait provoqué le mois dernier l'ajournement de Clermont-Strasbourg qui se jouera finalement le 19 janvier. Deux autres clubs demandent encore des reports et cette fois toujours à cause du Covid. Bordeaux veut différer son match contre l'OM prévu vendredi. 17 Girondins sont testés positifs. 12 sont positifs au FC Lorient qui demande lui aussi un report de son match samedi face à Lille. Le temps pour ce jeudi, Valérie Darmon, eh bien ce sera presque partout du soleil et des températures de saison.
Effectivement, et de la Bretagne à la Normandie, le ciel est bien dégagé dès le lever du jour, mais progressivement il va se voiler par l'ouest. Et le vent va se lever aussi, souffler en rafale autour de 60 km/h sur le littoral. Les premières pluies arrivent sur le Finistère en début d'après-midi et gagnent peu à peu le Cotentin en soirée. Sur les Pays de la Loire, le bassin parisien, le centre, le Val-de-Loire, la Nouvelle-Aquitaine, les brouillards sont givrants en matinée et réduisent en plus la visibilité dans la partie nord. Les chaussées peuvent être glissantes, mais l'après-midi est très bien ensoleillé. Du Grand Est à l'Auvergne, à Rhône-Alpes, en passant par la Bourgogne et la Franche-Comté, le temps est gris et froid le matin, et puis les éclaircies, là aussi, percent à partir de la mi-journée. En PACA et en Occitanie, le soleil domine, les rafales n'atteignent plus que les 60 à 70 km/h en soirée, et je vous donne la fourchette des froides températures. Entre 2 à Saint-Étienne et 13 degrés à Nice, à Paris, Lille, Tours et Cahors, il fera 7 degrés aux heures les plus chaudes de la journée, 8 à Bordeaux et au Havre.
Merci Valérie Darmon, on vous retrouve à minuit pour un nouveau point météo avec vous sur Europe 1. Restez avec nous. Dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
L'ambiance retombe ce soir à Wall Street. La perspective d'une hausse plus rapide des taux de la Fed plombe l'ambiance.
Oui, réaction négative au compte rendu de la dernière réunion de la Fed. C'est un document qui est toujours très attendu et il montre que la Banque Centrale Américaine pourrait relever ses taux directeurs plus tôt que prévu pour faire face à l'inflation. Alors on parle d'un ton plus faucon, c'est-à-dire plus strict de la part de la Fed, par opposition à une politique de colombe comme celle adoptée pendant la crise avec de nombreuses mesures de soutien. Le Dow Jones a donc mal réagi à ce ton plus faucon. Il perd 1,07%, 36 407 points après quand même un nouveau record historique hier soir. Le Nasdaq, lui, lâche 3,34%. Les valeurs technologiques sont considérées comme vulnérables face aux hausses d'intérêt. Elles sont donc sous pression. Apple lâche 2,7%, moins 1,9 pour Amazon. Meta, l'ex-Facebook et Microsoft perdent plus de 3%.
La chute est encore plus importante pour le constructeur Tesla, constructeur de voitures électriques.
L'action Tesla qui lâche 5,3% alors que de plus en plus de concurrents se lancent dans la voiture électrique. Le japonais Sony étudie une entrée sur le marché. Il l'a annoncé au salon CES de Las Vegas. On a quand même le compartiment pétrolier qui résiste mieux ce soir, soutenu par la hausse des cours du brut. Le géant Chevron gagne 0,7%, ExxonMobil plus 1,3%. Et puis un mot des devises avec l'euro qui est en hausse, plus 0,2% à 1,1309$.
Troisième séance de l'année, troisième record pour le CAC 40 qui profite toujours du recul des craintes liées à Omicron.
Toujours de l'optimisme pour le CAC 40 qui touche donc un nouveau plus haut. Il gagne 0,8%, 7376 points. Du côté des valeurs, Carrefour est porté par les rumeurs d'un rapprochement avec son concurrent Auchan. Auchan qui aurait relancé les discussions après un premier échec en octobre, selon l'agence Bloomberg. Carrefour aligne une huitième séance consécutive dans le vert en hausse de 5% ce soir. Le secteur automobile aussi est bien orienté. Renault monte de 5,3% et Stellantis gagne 3,9%. C'est une troisième séance de hausse pour les marchés européens. Londres avance de 0,2%. Francfort et Milan plus 0,7%. Madrid perd quand même 0,1%. Et à Paris, le CAC monte de 0,8%. 7376 points.
Merci Claire Lemaître. Attendez-vous à une nette hausse des prix dans la grande distribution, probablement d'ailleurs de plusieurs pourcents. Pour en parler, l'invité éco ce soir, Jacques Ressel, directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution. Il répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Jacques Ressel.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de la FCD, c'est la Fédération du commerce et de la distribution. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est pour parler des débuts de la vente de tests antigéniques pour faire ces autotests à la maison au sein des grandes chaînes de la distribution. Il paraît que ça part très très fort. Vous le constatez, c'est ce qui vous remonte ?
Les premiers chiffres montrent qu'au cours des 4 premiers jours de vente, il y a eu environ 2 millions d'autotests qui ont été vendus, ce qui est un chiffre important, mais il faut bien voir que chaque jour en France, il y a plus d'un million de tests antigéniques et PCR qui sont faits par les Français ces derniers jours. Donc c'est naturellement quelque chose de significatif. Je crois que c'est très complémentaire en plus de ce qui se passe par ailleurs. Les pharmaciens ont des tests, vont pouvoir les distribuer dans le cadre de la nouvelle réglementation qui a été mise en place par le gouvernement pour les cas contacts. Donc on a, je pense, une bonne complémentarité. Ça permet aux Français, pour un tarif moins cher globalement que ce qui était vendu avant, de pouvoir se rassurer dans ces périodes de ce type-là, où tout le monde est un peu inquiet. Je pense que c'est vraiment extrêmement utile.
Et ils sont vraiment vendus à prix coûtant, comme s'étaient engagés la plupart des grands distributeurs ?
Oui, ils sont complètement vendus à prix coûtant. En tout cas, c'est une annonce qui a été faite par l'ensemble des distributeurs. Et ils sont donc à des prix qui sont un peu au-dessus de 1,20€, très souvent, entre 1,20€ et 1€ et un peu plus. Et donc, c'est-à-dire le prix coûtant qu'ils ont eu, le prix d'achat, plus les taxes éventuelles.
Alors, tout ça, c'est effectivement très important, mais est-ce qu'il y a assez de stock pour justement faire face à cette demande qui semble grandissante de ce que vous dites ?
Il n'y a pas d'inquiétude majeure de ce que j'ai eu comme information, parce que naturellement ça relève de chaque enseigne. Chaque enseigne a son sourcing, ses fournisseurs. Globalement, ils ont des possibilités d'achat importantes. Souvent, les problèmes sont des problèmes très concrets de transport, des problèmes de dédouanement, mais ça se met en place progressivement et d'ores et déjà, il y a beaucoup de tests qui ont été effectivement mis en magasin et ça va monter en puissance dans les jours qui viennent.
L'autre grosse tendance du moment, c'est l'inflation. On a encore eu des chiffres là en début de semaine. L'inflation se maintient à des niveaux extrêmement élevés, quasiment 3% en France. Est-ce que là, vous pensez que les distributeurs vont laisser passer de grosses hausses de prix et donc que nous, ça va nous impacter, nous consommateurs ?
Bon, c'est naturellement trop tôt pour faire le bilan de négociations qui se termineront début mars. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une période où l'inflation est forte, qu'il y a une forte hausse des matières premières. Il y a par ailleurs une loi qui a été votée il y a quelques semaines par le Parlement qui interdit de négocier le prix de la matière première agricole qui est dans les produits. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va conduire de fait à ne pas négocier sur une partie du prix.
Mais pour autant, on entend les fournisseurs qui disent « Mais nous, on est totalement étranglés par les hausses des matières premières. » Et ce n'est pas que les matières premières agricoles, c'est aussi bien le carton, ça a été le bois pendant un moment, c'est le transport dont les prix ont aussi explosé. Et ils sont nombreux dans tous les secteurs. Alors les pâtes, on a déjà vu des hausses, mais le café, mais on pourrait citer tous les secteurs. Et parfois, ils parlent de hausse attendue de 8 à 10%. Pour vous, ce n'est pas ça qui va se passer, Jacques Ressel.
Il y a des hausses qui vont avoir lieu. Ça, c'est incontestable. Il y a des hausses. Simplement, on a des Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Et donc, il faut faire en sorte que ces hausses soient les plus raisonnables possibles. Donc, il y a une partie qui ne sera pas négociable, c'est la partie sur les matières premières agricoles, parce que ça, il est essentiel, dans le cadre de la nouvelle loi qui est passée, de faire en sorte qu'il y ait une amélioration du revenu des agriculteurs. Mais en revanche, il y a des négociations sur d'autres sujets. On est face à des industriels qui, parfois, sont des PME, où là, par contre, il faut faire attention, de prendre en compte vraiment l'évolution de leurs charges. Et puis, de l'autre côté, on a quelques très grands industriels, français ou étrangers, qui ont des marges très élevées, et qui peuvent faire des efforts, comme tout le monde, dans une période d'inflation de ce type-là. Et donc, ceux qui crient le plus fort sont généralement ceux qui veulent plutôt préserver le plus, voire augmenter leurs marges. Et c'est pour ça qu'ils le font.
Il faut donc s'attendre, là, dans les jours à venir, à des négociations extrêmement ardues, parce que pourtant...
Bien sûr, les négociations vont être difficiles cette année. Elles se traduiront à la fin par une augmentation des prix. Mais il faudra qu'en même temps, cette augmentation des prix, elle soit raisonnable, parce que sinon, les Français...
Qu'est-ce que vous entendez par raisonnable dans votre bouche? Est-ce que ça veut dire aux alentours de l'inflation, c'est-à-dire aux alentours de 3%?
Il y aura une augmentation. On voit bien que d'ores et déjà, les derniers chiffres montrent qu'on est repassé en inflation sur les produits alimentaires en France. Il y aura plusieurs pourcents, sans doute, d'augmentation des prix. Combien à la fin? Est-ce que ça sera 2? Est-ce que ça sera 3? Est-ce que ça sera au-dessus? Bah là, on le verra à la fin des négociations d'ici 2 mois. Mmh. Mais il y aura une augmentation incontestable des prix cette année.
Enfin, toute dernière question, Jacques Cressel. Il y a une nouvelle rumeur qui circule comme quoi Auchan travaillerait à trouver des financements pour peut-être refaire une offre sur Carrefour. C'est ce que dit l'agence de presse économique Bloomberg. En tout cas, il n'y a pas de commentaire de la part d'Auchan et de Carrefour, si ce n'est grosso modo de dire « circuler, il n'y a rien à voir ». C'est inévitable une concentration dans le monde de la grande distribution en France ?
Je n'ai naturellement aucun commentaire à faire sur des opérations
c'est étonnant.
Éventuelles que, pouvant concerner des enseignes importantes. Ce qui est certain, c'est que dans le cadre des assises du commerce qui se sont déroulées il y a quelque temps, on a tous fait un constat qui va ensuite, il va y avoir des décisions gouvernementales sur le sujet dans les semaines qui viennent, c'est qu'il va falloir investir beaucoup dans les années qui viennent. Et donc il va falloir que l'État soit un État stratège qui l'aide les entreprises du commerce à investir beaucoup plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Et donc, bah, dans ce cadre-là, naturellement, toutes les options et notamment la possibilité que l'État aide d'une manière avec des mesures fiscales, à mon avis, sont des sujets tout à fait essentiels dans les temps qui viennent.
Jolie pirouette pour répondre à tout cela, mais j'en attendais pas moins de vous, Jacques Cressel. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la FCD, la Fédération du Commerce et de la Distribution. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Et merci à vous, Emmanuel. On vous retrouve également avec Elisabeth Assayac de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Avec votre invité, le patron de Manpower, vous verrez comment se présente le marché de l'emploi pour cette rentrée de janvier.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
À la une de vos quotidiens, demain matin, jeudi 6 janvier, Emmanuel Macron et la stratégie de l'affrontement. C'est le gros titre du Figaro. En choisissant de cibler crûment, écrit le Figaro, les non-vaccinés, Emmanuel Macron veut installer la question sanitaire au cœur de la bataille politique. Avec ce sondage que nous livre le quotidien demain, le chef de l'État est toujours largement en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. 27% pour Emmanuel Macron contre 16% pour Valérie Pécresse et Marine Le Pen, deux candidates qui se retrouvent dans ce sondage à égalité. Le président de la République dans une posture offensive à la une de Libération. Macron, populiste à tout vax, titre Libé, vulgaire, vindicatif, plutôt qu'en président du Rassemblement. Emmanuel Macron s'est présenté lundi en candidat du clivage en vue de la présidentielle. Voilà pour les commentaires de Libé. Le président a déclenché une tempête en s'attaquant frontalement aux non-vaccinés, écrit l'Opinion, une stratégie pour recentrer la campagne sur le sanitaire, mais aussi pour réactiver le Macron de 2017. Emmanuel Macron, à 3 mois de la présidentielle, titre l'Opinion, eh bien c'est le retour du disruptif. 22h et bientôt 30 minutes sur Europe 1. Voici venir Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Prêt pour votre libre antenne. Un petit coup de froid, donc, peut-être.
Un petit retour dans le froid, là.
Ouais,
c'est pas la super forme, mais ça va venir tout doucement.
On vous voit rarement habillé aussi chaudement, c'est
exactement,
pour ça.
Hein, exactement, mais ouais. Bon, c'est, vous savez, l'homme est... L'homme est fragile.
Bon, ça va aller.
Ça va aller, je le sens. Ça va. Déjà, votre contact me remet de l'énergie.
Bon, ça fait plaisir.
Bon, on se retrouve tout à l'heure.
Avec
à 23h.
À tout à l'heure.